Vous vous rendez compte que dans 3 mois, ça sera les grandes vacances d'été analogiques? Regardez déjà les jours à longe. Et le week-end, on commence déjà à y penser dès les vendredis matin. Mais bon, 3 mois, c'est long quand même. Surtout quand on se fait un programme d'enfer. Devenir la reine de civilisation en réseau. Et réussir à configurer mon PC pour que les jeux marchent avec Windows 95. Finir Donkey Kong 2 et apprendre à faire des pages HTML qui marchent bien. Donc, pas le temps de trop rêver et au boulot. Aujourd'hui, dans un cyberflash qui fonce tête baissée, Sega Rally. Et le point sur une originalité française sur les CD-ROM, la bonne santé du marché des programmes culturels. En voiture!
On vous avait déjà annoncé sa sortie, mais là, il fait un carton dans le monde entier. Alors, on ne résiste pas au plaisir de revenir dans Sega Rally. Premier jeu à utiliser complètement les possibilités matérielles de la Saturn, avec l'OS2, un nouveau système d'exploitation. Maintenant, la Saturn est encore plus performante dans la gestion des objets en 3D avec texture. Le thème du jeu, le rallye, n'est pas si fréquent que ça sur console, et ce titre place la barre très très haut. Première qualité, l'impression de vitesse qui donne envie d'être sanglé dans un siège baquet. Sur ce genre de terrain, la moitié de la course se gagne dans les dérapages et une bonne anticipation des virages. Écoutez votre copilote et surveillez les flèches, c'est le meilleur moyen de rester sur la piste. Il y a 2 voitures au choix, avec une boîte de vitesse automatique ou manuelle. Pour débuter, je vous conseille la Toyota Celica, bonne tenue de route, pneus compétition, autoradio en option et verrouillage central des portes. Elle est virtuelle, mais elle est belle, elle aussi. Bon, sur un plan plus technique, ces bolides sont entièrement paramétrables. De la pression des pneus au choix de la transmission, pour une fois, Sega ne s'est pas contenté d'une simple conversion et ça fait plaisir. Ils ont même ajouté une troisième vue et une voiture cachée, la Lancia Stratos. Par contre, les 3 circuits n'ont presque pas changé par rapport à l'arcade et c'est tant mieux. Si vous remportez la victoire en mode compétition, vous découvrirez un niveau supplémentaire magnifique. À mon avis, il doit bien y avoir une astuce pour y jouer comme dans l'arcade. Sega Rally est vraiment très impressionnant, mais on ressent les limites de la manette. La jouabilité est excellente et il y a même un mode 2 joueurs sans ralentissement.
Ça vaudrait presque le coup d'acheter le volant Sega qui se branche sur la Saturn. Et maintenant, on va aller voir du côté des marchés, comme tous les vendredis dans la rubrique Tendance. Quels sont les CD-ROM culturels qui se vendent le mieux? Les éditeurs du Louvre ou de Napoléon gagnent-ils de l'argent? Quelle est la taille de ce marché par rapport à celui du jeu? Je suis allé le demander à Joël Poix, un des meilleurs spécialistes français de ce domaine.
Il ne faut pas oublier que dans le monde du multimédia aujourd'hui, les grandes tendances sont représentées à 80% par le jeu, au niveau français comme au niveau international, et les 20% restants sont occupés, j'irais, dans 3 directions. La première, c'est les produits culturels, mais ça, c'est également très franco-français, du style de Louvre, Orsay, Michel-Ange, San Diego, des produits de référence de type encyclopédique, comme des dictionnaires, Hachette et bien d'autres, et puis des produits éducatifs qui maintenant apparaissent sur le marché et qui répondent vraiment à une attente très importante du consommateur. La référence est toujours le Louvre, et depuis maintenant presque un an, toujours en tête des parades, mais c'est vrai que c'est un produit un peu atypique qui est arrivé sur le marché au moment où il n'y avait rien d'autre, mais ça démontre aussi que par rapport à l'activité jeu, ce sont des produits qui ont une durée de vie beaucoup plus longue. Le Louvre, c'est vrai, est aujourd'hui technologiquement dépassé. Et le prochain type, Musée d'Orsay, est un programme qui aujourd'hui va utiliser tout ce que la technologie a aujourd'hui de plus par rapport à ces nouveaux médias. C'est-à-dire le QuickTime VR par exemple, et un procédé comme le QuickMove qui permet de savoir à tout moment où vous en êtes et où vous pouvez aller. Si l'on veut parler de chiffre de vente de produits culturels, je pense que le Louvre est un exemple qui est intéressant puisqu'aujourd'hui on a 80 000 ventes en France du Louvre version française. Et qu'un programme moyen de référence culturelle se vend entre 3 et 5 000 exemplaires. Mais on a des contre-exemples, parce que certains programmes de type référence comme Lulu de Flammarion ou comme Napoléon, par exemple, sont vendus à plus de 10 000 exemplaires en France. Et le Léonard de Vinci, par exemple, qui était un des premiers produits culturels de référence, s'est vendu à 15 000 exemplaires. Donc je crois que ce qui est important, c'est de se dire qu'un produit culturel en France se vendra à 10 000 exemplaires, et au monde, il faut atteindre, à partir du moment où on envisage une localisation dans une dizaine de langues, environ 45 000 à 60 000 exemplaires. Sinon, ce n'est pas intéressant de faire du produit, même de référence. Pour un éditeur, sa stratégie, s'il en a les moyens financiers, devra s'articuler sur deux grands axes. L'activité jeu, parce que c'est une activité qui est économiquement très forte, mais qui est à gros risque, et l'activité de référence ou d'éducation ou de programme de type culturel, qui est moins risqué financièrement et qui peut lui permettre d'avoir un fonds de roulement financier plus important, mais avec aussi des espérances de vente beaucoup plus faibles. Donc le rapport, je dirais, investissement-vente est totalement différent entre les produits culturels et les produits jeux, mais avec un risque beaucoup moins important au niveau des produits culturels. Faire un jeu coûte beaucoup plus cher que faire un produit culturel et s'apparente plus à l'industrie cinématographique, alors que le produit de référence s'apparente plus à l'activité éditoriale traditionnelle. Je considère qu'on est au paléolithique inférieur et qu'on est en train de dessiner sur des grottes des programmes et que tout reste à faire.
La culture et le multimédia, c'est plutôt un mariage réussi, n'est-ce pas? Mais un bon conseil, que cela ne vous empêche surtout pas de courir voir une expo, d'aller au cinéma et d'ouvrir un livre. Tiens, ce week-end par exemple. À bientôt mes analogiques chéris.